Eh bien, j'ai le plaisir de continuer l'étude dans 1 Corinthiens. On prolonge, on arrive un peu à la fin, hein. On arrive au chapitre 16, il reste plus beaucoup de chapitres, mais il y a encore pas mal de textes à voir, pas mal d'idées, hein. Les lettres de l'apôtre Paul sont très riches en enseignements, donc on a encore quelques semaines dans ce livre. On va retrouver l'apôtre ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va débuter ce chapitre, c'est l'avant-dernier, et on va lire les 9 premiers versets. Je vais prier avant de commencer. Seigneur, nous allons plonger nos regards dans ta parole. Chaque mot est important. Seigneur, tu as pris soin de nous transmettre ta pensée par écrit. Ça aurait pu être une tradition orale, mais tu as voulu qu'elle nous parvienne avec exactitude. Seigneur, chaque mot est important. Nous voulons aussi bien étudier ta parole en profondeur pour bien comprendre, Seigneur, ce que tu as comme plan pour l'homme, Seigneur, pour son salut, son destin éternel. Seigneur, parle-nous en cet instant et viens éteindre la radio que nous avons à l'intérieur, qui fait du bruit parfois et qui nous perturbe, Seigneur. Que rien ne puisse parasiter le message que tu auras pour nous ce matin. Que nous soyons attentifs, Seigneur, à ton écoute. Dans le nom de Christ, nous t'en prions. Amen. La radio mentale, vous savez, celle des fois qui fait de la musique dans votre tête, là, perturbant ça. Alors, 1 Corinthiens 15, hein, versets 1 jusqu'à 9. Alors, Paul leur dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Verset suivant. « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, vous vous rappelez pourquoi Paul il écrit cette lettre, hein. Il y a deux motifs, c'est que déjà, il lui avait écrit, donc il lui avait fait un courrier en disant, voilà, on a des points de doctrine. Alors, donc, Paul répond, puis en même temps, il y avait les gens de la maison de Chloé qui avaient dit à Paul, il n'y a pas de bonne nouvelle de la part de l'Église des Corinthiens, ça part dans tous les sens. Alors Paul, il va leur faire une longue lettre pour répondre, et c'est depuis le mois de mai qu'on la traite ensemble. Paul, il va leur faire une longue lettre, et là on a lu 9 versets, vous allez voir déjà rien de toutes les idées qu'on va en sortir. Aujourd'hui, on n'écrit plus. On n'écrit plus aujourd'hui. Pour fêter les vœux, on fait même plus de cartes, on fait à peine un SMS, un email peut-être. Mais Paul, lui, quand il y avait un problème à régler, 8 pages, encore 8 pages, je suis sympa, 8 pages d'une Bible, mais si on le met sur un texte Word comme ça, ça fait 40, 50 pages peut-être. Quand c'était des choses du Seigneur, Paul, il prenait pas les choses à la légère, il allait à fond, il allait en profondeur dans le texte. Alors c'est une bonne habitude à suivre peut-être pour nous, celle de l'apôtre Paul, c'est quand on parle de doctrine, de foi, de questions bibliques, prenons notre temps et voilà, ne bâclons pas avec juste un petit email ou un SMS en réponse. L'arrière-plan de l'église de Corinthe, rappelez-vous aussi, c'était quoi? Rivalité, désordre, problèmes doctrinaux, problème de morale, esprit de division, il y avait beaucoup de problèmes. Hein. L'église, elle était vraiment loin d'être exemplaire. Alors, dans les 14 premiers chapitres qu'on a vus, Paul, il répondait aux questions, puis en même temps, il réglait les points de doctrine. Et puis là, il va revenir aux fondamentaux. Parce que ces Corinthiens, ils s'étaient quand même perdus loin de la simplicité de l'évangile, on a vu dernièrement. Donc, il va revenir aux principes de base. Regardez avec moi. Verset 1 à 3. L'apôtre, il va leur rappeler l'évangile. Regardez ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors, Paul, il va mettre l'accent sur deux choses. Il va parler de Jésus-Christ et il va lui mettre vraiment l'emphase sur deux points, c'est la mort du Seigneur et sa résurrection. Le passage qu'on vient de dire, il est tellement simple qu'on peut vraiment évangéliser avec. C'est un super passage très court pour bien expliquer le plan de Dieu pour les hommes. Et pourtant, c'est pas ce qu'il aurait dû faire ici, parce qu'il parle à qui, Paul, ici? Il parle à des inconvertis? Ah non, regardez comment il commence, verset 1, juste avant. Je vous rappelle, frères. Donc il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui avaient déjà entendu, parce qu'il rappelle, et qui s'étaient déjà convertis parce qu'ils étaient des frères. Mais ils étaient vraiment partis très loin. Hein. C'était des chrétiens. Paul ne parle pas des inconvertis, à des païens, des juifs, etc., qui fréquenteraient l'assemblée. Non, c'était des chrétiens, mais ils étaient vraiment à l'abandon. Hein. Vous avez vu, ce peuple-là, ils s'étaient vraiment bien éloignés de la doctrine. Pourtant, ils étaient quand même bien renseignés. Ils avaient été bien renseignés. Regardez versets 4 à 5. Verset 4 à 5. Alors, attends, c'est peut-être pas l'anglais, c'est le chapitre 15. Oui, voilà, c'était en chapitre 1, pardon. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 5. Regardez, c'est des chrétiens bien renseignés. On l'a vu la dernière fois avec Andrew, la semaine dernière. « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Donc, Andrew nous l'avait rappelé la semaine dernière. C'était pas juste, ils n'avaient pas une connaissance un peu légère, ils avaient entendu parler une fois dans une émission que... Non, non, ils avaient été bien renseignés, ils avaient été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, bien renseignés. Bien renseignés, c'est une chose, mais en plus, ils étaient bien enseignés. Regardez le verset d'après. Il parle donc du témoignage de Christ. « Ayant été solidement établis parmi vous. » Donc, ils sont bien renseignés d'abord, ils ont le message, ils sont bien enseignés ensuite. Le message a été solidement établi parmi eux. Donc, ils étaient bien nourris dans la parole de Dieu. Ils devraient être des hommes matures dans la foi. Pourtant, rappelez-vous, c'était plutôt des bébés. Ils en étaient encore au lait maternel. Des chrétiens charnels dans cette église, à tel point que certains, Paul leur dit, vous ne connaissez même pas Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 15, verset 34. Ils en étaient au point qu'il y en avait qui ne connaissaient même pas le Seigneur, finalement. Renseignés, enseignés, mais à rien. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent même pas Dieu, je le dis à votre honte. On peut venir à l'église tous les dimanches, entendre des messages. Hein. On peut venir, on peut écouter plein d'émissions chrétiennes, on peut dire je vais à l'église. Avant d'être converti, j'étais catholique, j'allais à l'église et je peux vous dire qu'en sortant de la messe, oh là là, alors là, ça déblatérait sur les autres. Hein. Oh là 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 là, c'était vache, c'était cruel. Hein. Et puis je peux vous dire que ceux qui étaient là le dimanche, moi je sais ce qu'ils faisaient pendant la semaine, j'en connaissais certains bien. Voilà. Je peux leur dire, je peux dire qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas Dieu, certainement. Même s'il n'y a que le Seigneur qui le sait, mais enfin bon. Vous ne connaissez même pas Dieu. Le terme qui est utilisé ici, agnosia, ça signifie méconnaissance, ignorance, en fait. Ces personnes avaient entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissaient pas vraiment, quoi. Ils avaient une écoute, comme ça. Par exemple, je croise souvent un voisin, par exemple, dans l'immeuble, je le croise souvent. Je sais qui il est, je sais comment il s'appelle, je sais à quel étage il habite. Je sais où il achète son pain, parce qu'on l'achète au même endroit, mais je le connais pas. Je le connais pas. Je sais où il travaille, mais je le connais pas personnellement, intimement. Et c'était à peu près la connaissance qu'ils avaient du Seigneur, quoi. Oui, ok, ils croient en Dieu. Ah, il y a un Dieu quelque part. Mais c'est qui Dieu? Paul leur dit, certains d'entre vous ne connaissent même pas Dieu. Je le dis à votre honte. Donc ils avaient entendu des prédications, aucun impact sur leur vie, voilà. Pourtant... Est-ce que c'est les enseignants qui sont à remettre en cause? Vous vous rappelez les enseignants qu'ils avaient à Corinthe? On l'a déjà répété, si vous êtes là depuis quelque temps. Paul, Pierre, Apollos, en termes de doctrine, c'est vraiment ce qu'il fallait. Hein. Ils enseignaient très bien, mais simplement les gens y venaient, mais pas d'impact, quoi. Quand j'étais au collège, j'étais pas très bon en espagnol. J'étais même plutôt zéro en espagnol. Je me suis bien rattrapé parce que j'ai un excellent professeur. Mais quand j'étais au collège, j'étais zéro en espagnol. Est-ce que c'était de la faute de ma prof? Elle s'appelait Madame Martin. En fait, on l'appelait Madame Martin, elle était espagnole, il aurait fallu qu'on l'appelle Madame Martin, mais on l'appelait Madame Martin. C'était une super prof, elle était espagnole, elle avait un super accent, il n'y avait pas de problème et tout. Le problème, c'était qui? C'était elle ou c'était moi? Bah, c'était moi. J'écoutais pas. J'étais là, mais j'écoutais pas. Alors, physiquement, j'étais là, Fabrice présent, je suis là. Mais alors, ma tête, radio mentale, hein, c'était à fond, c'était musique rock, Madame Martin et son cours d'espagnol. Bof, quoi. J'écoutais pas du tout. Et quand on est parfois assis le dimanche matin, les amis, est-ce qu'on n'a pas cette mauvaise tendance de se dire, le prédicateur, au bout d'un moment, les 5 premières minutes, je suis à fond, puis après, radio mentale, je commence à me perdre dans mes pensées et tout. Est-ce que la prédication de la parole de Dieu le dimanche vous transforme, les amis? Est-ce que vous prenez du temps pour l'écouter? Est-ce qu'on est capable, pendant 40 minutes, 50 minutes, de couper la radio et d'écouter le cours de Madame Martine? Il faut que ça ait de l'impact dans vos vies. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé en... Heureusement qu'il y avait une petite base quand même qui m'a permis de parler avec vous quand je suis allé en Amérique latine, mais... Sinon, c'était zéro hein, dans ma vie, l'espagnol, il ne fallait pas compter. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas pour la doctrine, j'espère que vous êtes des très très bons élèves. Eh bien, ce n'était pas le cas à Corinthe, en tout cas, parce que Paul, il dit, bon, allez, les gars, on va revoir les bases, parce que là, le cours d'espagnol, ça ne sert à rien que j'aille plus loin sur les gérondifs, les déclinaisons et tout. Je crois que le vocabulaire de base, vous n'y êtes pas du tout, en fait. Donc, on va perdre notre temps, on va revenir aux bases de l'espagnol. Et il dit, ben, on va revenir aux bases de l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1, on revient dessus. Eh ben, chers élèves, dit Paul à Corinthe, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voilà. Donc, il va leur rappeler l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? On va peut-être le définir aussi. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que vous savez ce que signifie le mot évangile? Bonne nouvelle. Voilà, très bien. C'est quoi cette bonne nouvelle? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Waouh, super, c'est quoi? J'ai envie de savoir ce que c'est. Ben Paul va l'expliquer au verset suivant. 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout les bases de l'espagnol, comme je l'avais aussi reçu. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ah, voilà la bonne nouvelle, les amis. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, c'est que Christ, verset 3, est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures, c'est ça? Le Seigneur vient mourir sur la croix pour payer les péchés du monde, vos péchés, mes péchés, toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Christ va les payer une seule fois sur la croix. Il paye tout, il meurt sur la croix. Pour Dieu, tout est effacé, parce que Christ a tout payé. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et ensuite... Christ est mort pour nos péchés, mais ensuite il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. C'est ça le plan complet du salut. C'est qu'il n'y a pas que la mort, il y a aussi la résurrection. Sinon, le plan n'est pas complet. Il fallait aussi que Christ vainque à la fois la mort, le péché, et donc voilà la mort ici avec la résurrection. Il fallait que la victoire soit complète. La résurrection de Christ, ça nous confirme deux choses. Déjà, ça nous assure qu'après la vie, après la mort, il y a la vie, les amis. Hein. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Hein. Je faisais partie de cela. Hein. Avant, c'était ma grande recherche avant de me convertir. C'est qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a une vie? Et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Alors, quand on en est là, quand on se pose des questions, souvent, on se perd un peu parce qu'on va à la librairie, on tombe sur n'importe quoi. On se connecte sur YouTube et on tombe sur n'importe quoi. Et on pose des questions aux gens et on a des réponses qui sont n'importe quoi. Lisons la Bible, ce qu'elle dit, Hébreux 9, verset 27. La mort de Christ, ça nous prouve qu'après, il y a la vie. Mais est-ce qu'il y a autre chose encore après? Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on se réincarne, tout ça? Résurrection, réincarnation? Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et à l'époque, avant de me convertir, je pensais qu'on revenait plusieurs fois, voilà, une doctrine un peu comme ça. Je confondais résurrection et réincarnation. Réincarnation, c'est on se réincarne, donc carnet, chair, on revient dans la chair et on recommence autre chose. Non, là, c'est la résurrection, c'est Christ est mort, il se relève et il vit encore, voilà. Mais la Bible ne dit pas qu'il y aura plusieurs vies après, hein. Au contraire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc, il ne faut pas se dire, je serai meilleur dans la vie prochaine ou je vais payer dans la vie prochaine les erreurs que j'ai pu commettre ici. Il faut régler nos comptes maintenant Parce qu'après, elle vient le jugement, les amis. Hein. Après, il n'y aura pas de seconde possibilité. Hein. Nous ne croyons pas non plus, vous l'avez compris, comment ça s'appelle rappelle-moi le nom. Non, c'est pas ça, c'est le purgatoire, voilà. Ah. Où il y aurait un moment de purification des péchés, avant une sorte de sas de compression, de décompression avant d'aller au ciel. C'est pas biblique du tout, vous pouvez tordre des écritures, chercher partout, vous trouverez rien là-dessus. Il n'y a rien du tout, pas de purgatoire, pas de réincarnation, juste résurrection. Voilà, ça c'est le plan de Dieu et c'est tout. Parce que dans l'entourage de Corinthe, à l'époque aussi, il y avait beaucoup de croyances comme ça. Hein. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc, première chose, après la mort, il y a la vie. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Ensuite, il n'y a qu'une seule mort et il n'y a pas de réincarnation après. Et ensuite, on ne doit plus avoir peur de la mort aussi. Il y a des personnes qui ont très peur de la mort. Non, il n'y a pas de raison. Si on est au Seigneur, le Seigneur nous accueillera après. Hein. Il y aurait plein de passages, on pourrait refaire un autre message dessus, mais... Après la mort, on est avec le Seigneur. Hein. Rappelez-vous, quand Christ est crucifié, il y a un brigand à côté, et le Seigneur lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, le Seigneur accueille même cet homme qui a une vie, peut-être un assassin, ou voilà. Et c'est au dernier moment de sa vie qu'il se convertit. Le Seigneur, à partir du moment où il est converti, il a cru, il est sauvé. Hein. Le Seigneur ne fait pas en fonction des hommes, etc., avec un purgatoire, voilà, c'est quoi. Le plan de Dieu, c'est ça. Alors, regardez avec moi. Trois versets. C'est quoi le plan de cette bonne nouvelle? On va regarder une synthèse assez simple. Vous connaissez la voix romaine, peut-être. On va le regarder. Je vais te demander peut-être, Samuel, si tu veux projeter. Le plan de Dieu, c'est simple. Il y a un constat, un remède, une décision à prendre. Voilà, c'est très simple si vous voulez avoir le plan en tête. Un constat, un remède, une décision à prendre. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas besoin de faire faculté de théologie 12 ans. Okay. Premier constat, Romains 3, 23. On est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'est très simple. Levez la main ceux qui n'ont jamais péché. Cela, vous pouvez sortir, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps ce matin, c'est pas pour vous. Mais ça n'existe pas, évidemment. On a tous péché et du coup, on est privés de la gloire de Dieu. Ça nous coupe la relation, pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas être en contact du péché. Donc, comme il est saint, il se retire. Et du coup, on est privé du contact avec lui. Ça, c'est le constat. Situation amère, on a tous péché. On est tous privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, le Seigneur, il prévoit un remède. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ce que Paul dit, et c'est ce que Andou aussi a répété ce matin. Et c'est ce qu'on a vu dans la réunion de prière juste avant le culte aussi. Il y a un constat, on est tous pécheurs, on va tous mourir. Dieu prévoit un remède. Christ est mort pour nous. Il y a la solution, les amis. C'est pas dans la réincarnation, c'est pas dans le bouddhisme, c'est pas dans l'islam, c'est pas dans Confucius, c'est pas dans je ne sais quoi. Il n'y a qu'un seul passage pour aller jusqu'à Dieu, c'est Christ, et Christ qui meurt pour nous. Donc, une décision à prendre, constat on est perdu, remède, Christ meurt pour nous, décision à prendre, Romains 19, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir le carnet de chèque? Faire des œuvres? Donner de l'argent à l'église? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, c'est pas plus difficile. Deux choses, confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est votre Seigneur. C'est pas confesser de sa bouche Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Il est bien votre Seigneur, c'est bien le maître de votre vie. Et il faut croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour être sauvé. Et c'est pour ça que Paul va mettre l'accent sur les deux points, mort, résurrection. Donc, un constat, un remède, une décision à prendre. Si vous avez fait ça, vous avez confessé de votre bouche le Seigneur Jésus, il est bien le Seigneur de votre vie à présent, vous avez bien cru qu'il était ressuscité des morts, vous êtes sauvé, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, question, où en êtes-vous avec le Seigneur? Est-ce que vous avez fait ces deux étapes-là? Est-ce que vous croyez bien dans votre cœur? Est-ce qu'il est bien votre Seigneur? Est-ce que vous croyez bien donc que Dieu l'a ressuscité des morts? Il y en a qui croient que Jésus est mort. Pour la résurrection, c'est plus compliqué, par contre. Ah oui. Folie pour les Grecs, les Juifs, etc. etc. Et pour les hommes d'aujourd'hui aussi. Hein. Donc, où en êtes-vous si vous êtes assis sur une chaise ce matin? C'est pas par hasard. Si vous êtes en train d'écouter la prédication sur un podcast sur le site de l'Église, c'est pas un hasard non plus. Vous êtes en recherche. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment en paix avec lui? Parce que le constat, c'est qu'on a tous péché, qu'on va tous mourir, quoi. On prend une autre image, si vous voulez. Fiction. Un professeur dans un laboratoire s'est trompé sur une expérience, il a propagé un virus dans le monde entier. Virus mortel, tout le monde est touché. Wow. Tout le monde va mourir. Vous êtes touché aussi ? Vous êtes aussi contaminé par le virus. Premier constat. Le remède. Il y a un vaccin, les amis. Il y a un vaccin très simple. Vous le prenez, vous êtes guéri, vous êtes sauvé. Tout va bien. Décision à prendre, vous faites quoi ? Vous vous dites, moi je suis costaud, je vais me guérir moi-même. Le microbe, je vais le détruire moi-même. Okay. Il n'y a eu aucun survivant, tout le monde est mort. Hein. Vous faites quoi ? Il y a le vaccin qui est là, très facile à prendre. Vous vous obstinez ou vous le prenez ? Que faites-vous ? Ben moi, je vous invite à prendre le traitement préparé par Dieu. Prenez le vaccin que Dieu a prévu. Ne passez pas à côté du salut offert par Jésus-Christ. Vous n'allez pas guérir vous-même. Mauvaise nouvelle, ça ne se guérit pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire pour vous. Petite parenthèse, je ne crois pas à la doctrine calviniste, on n'y croit pas dans cette église non plus. Le calviniste pense que Dieu a choisi à l'avance ceux qui seraient sauvés. Ça veut dire que dans cette configuration-là, vous n'avez pas de décision à prendre en fait. Il manque une étape, parce que sinon Dieu a déjà choisi pour vous. Alors, vous voulez prendre le vaccin, Dieu, non, Dieu, désolé, il a choisi qu'il n'y avait pas de vaccin pour vous. C'est moche, hein. Et puis vous, ok. Mais Dieu, il a choisi d'avance que vous serez vacciné, vous. Ce serait super aléatoire, hein, quand même. Hein. Il n'y aurait pas assez de vaccins pour tout le monde, Dieu choisit à l'avance. Lui, non. Ce serait triste, hein, quand même, comme destin. Hein. Non, non. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a le vaccin pour tous. La mort du Seigneur, ça passait à Corinthe. Ça passait. Par contre, la résurrection des morts, c'était plus compliqué, là, pour eux. Hein. Les Corinthiens, alors, en termes de doctrine, c'était pour parler en langue, pour faire des prophéties. Alors là, c'était... Tellement tout le monde qui voulait y aller que Paul, il a dû organiser un petit peu les choses en disant « On va organiser un petit peu tout ça parce que ça part dans tous les sens. » C'était une époque de la vie de l'Église où il y avait besoin de parler en langue et de prophétie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on l'a vu les dernières semaines. On est très heureux qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs parmi nous qui parlent portugais. On est très heureux. Mais on n'a pas besoin. Ici, on va parler français et ça sera bien suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. En termes de doctrine, à Corinthe, c'était zéro, hein, zéro absolu. Alors Paul, il va leur dire, voilà, il faut aussi que vous croyiez en la résurrection. Regardez Romains 10, 9. Hein. On l'a vu tout à l'heure, si tu confesses de ta bouche, tu peux laisser le... Ouais, c'est pas grave. Romains 10, 9. Paul, quand il fait ça, il veut que ce soit clair. Christ est mort, Christ est ressuscité. Voilà ce dont ils ont besoin de savoir. Pourquoi ? Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a rien besoin de savoir d'autre. Corinthe, il partait dans tous les sens, dans oh là là, le Saint-Esprit, les dons, le machin et tout. Il disait, non, vous avez besoin de deux choses et tout ira bien, que Christ est mort et que Christ est ressuscité. Et à partir de là, ça ira. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de partir plus loin. Alors il va mettre tout d'abord l'accent, on l'a vu, sur la mort du Seigneur. Maintenant, il va mettre l'accent sur la résurrection. Alors comment il va faire ? Eh bien, il va leur donner des preuves de la résurrection. 1 Corinthiens 15, versets 5 à 7, c'est les points suivants dans le chapitre de ce matin. Voilà comment il va faire. Il va prouver en fait les personnes qui ont vu le Seigneur. Il leur dit, voilà, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dans quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors Paul cite plusieurs personnes ici, c'est des personnes qui ont été témoins de la résurrection. Tout d'abord il y a Céphas. Céphas c'est Pierre. Pierre il le connaissait, hein, il était venu prêcher. Hein. Donc Pierre, le premier qui a vu la résurrection du Seigneur c'est Pierre, et Pierre vous le connaissez. Ensuite il y a les apôtres. Voilà, puis aux 12. Et il dit un tout petit peu plus loin, verset d'après, puis aux 12, donc aux apôtres. Voilà, alors, voilà, juste pour les apôtres, a priori, les apôtres, ils étaient encore vivants, parce que Paul ne fait pas de mention, après il parle des 500, il dit, il y a des 500 là, puis la plupart sont encore vivants. Les apôtres, il ne dit pas la plupart sont encore vivants, on est en l'an 50 à peu près, donc a priori, ils sont tous, personne n'est décédé, donc les apôtres qui avaient vu Jésus, ils étaient encore vivants, et on sait que Jean va mourir vers à peu près l'âge de 90 ans, donc lui au moins est encore vivant, ça c'est sûr. Ensuite, donc voilà, il y a l'histoire des 500, on va y revenir. Et puis il y a Jacques. Jacques qui positionne à part des apôtres. Alors c'est qui Jacques ici ? Dans les 12 apôtres, il y a deux Jacques. Mais ce n'est pas celui-ci, visiblement, parce que il dit à Jacques puis à tous les apôtres. Donc c'est pas les deux Jacques qu'il y a dans les apôtres. Alors il y a une compréhension des textes qu'on a à peu près tous, hein, c'est que Jacques était un frère du Seigneur, un frère physique. Alors ça, les amis catholiques, ils vont bondir en disant « Virginité de Marie, pas possible ». Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais simplement, on va ouvrir la Bible, on va regarder ce que dit la Bible. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas d'avoir raison, c'est que la Bible ait raison et qu'il n'y ait pas d'erreur de doctrine. Regardez Marc 6 à 3. Qui est Jacques ? Les gens parlent de Jésus, là. Ils disent, c'est pas le charpentier, là ? C'est pas le charpentier, là, qu'on connaît ? Le fils de Marie ? Bon, ça, pour ça, pas de souci, hein. Le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Ah, Jésus, il a au moins quatre frères, hein, ils sont mentionnés. Hein. Et puis il avait des sœurs aussi. C'est une grande fratrie. Hein. On ne sait pas plus au ciel, on connaîtra peut-être tous ces détails. En tout cas, ici, on apprend quoi ? Qu'il est charpentier. Donc il a une profession, Jésus. Hein. Paul a travaillé, Jésus a travaillé. Il était charpentier. Hein. Voilà. On imagine le Seigneur, hein. Ça devait être quand même impressionnant. On n'a pas tous ces détails. Ça. C'est le fils de Marie, pas de souci. C'est le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Voilà, donc on a la preuve ici. Mais regardez, visiblement, a priori, ils ne croyaient pas en lui du tout. Regardez avec moi. Jean 7, versets 3 à 5. Vous imaginez, le Seigneur a eu des frères et sœurs. Il a grandi avec eux. Il était un témoignage pour eux. C'est le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même incarné. Et il y a les petits frères et les petites sœurs qui ne croient pas en lui aujourd'hui. On a quand même un peu de... C'est quand même surprenant, quoi. Regardez Jean 7, 3. Ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que des disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, vas-y, va dans le monde, montre ce que tu sais faire, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le problème de nos amis catholiques, c'est qu'ils disent... Quand la Bible dit les frères de Jésus, il veut dire les frères, ben les frères, on est tous frères et sœurs. Ils peuvent être frères s'ils ne croient pas en lui ? Ben non, c'est antinomique là, on a un souci quand même. Comment ça va être ses frères s'ils ne croient pas en lui ? Voilà. Donc les vrais frères de Jésus, ses frères et sœurs, ne croyaient pas en lui. Voilà. Mais il va se convertir Jacques plus tard. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 13 à 14. Ben Jacques, le frère du Seigneur, qui ne croyait pas en lui, tant qu'il était vivant, une fois que Jésus va être mort, on va le retrouver, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, un apôtre qui s'appelle Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, deuxième apôtre qui s'appelle Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Il y a encore un Jacques un peu quelque part présent. Verset d'après, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, Jacques se convertit après la mort de Jésus. Il fait partie du cercle des premiers chrétiens qui sont fidèles et qui commencent à fonder l'Église par la prière, etc. Donc, ensuite, il va devenir l'un des piliers de l'Église de Jérusalem. On le retrouve dans Acte 15. Il y a une grande décision, là, il y a Paul qui revient, ils sont avec Pierre, il y a le concile de Jérusalem, il y a un problème parce qu'il y a des judaïsants qui disent « Pour que les gens soient sauvés, qu'être chrétien, il faut aussi la circoncision. » Alors, chacun va prendre la parole, et Jacques aussi prendra la parole, et il va faire un beau plan de doctrine et tout. Donc, si vous voulez, vous vous amuserez à lire Acte 15, vous verrez la suite du parcours de Jacques. Mais on voit un homme qui a grandi dans une famille chrétienne, si je peux prendre une image. Christ était là, quand même, donc... Une belle famille où l'exemple de tout ce qui devait sortir de la bouche du Seigneur, à mon avis, c'était édifiant, même quand il était petit. Hein. C'est Dieu lui-même. Hein. C'est la parole de Dieu. Donc tout ce qu'a dit Jésus, même enfant, à mon avis, c'était ultra édifiant. Quoi. Il est né dans un contexte chrétien. Il voit Jésus grandir. Il voit Jésus faire son ministère. Il voit Jésus faire ses miracles. C'est une fois qu'il est mort qu'on voit qu'il est converti. Il a vu sa mort. Il a entendu parler certainement de sa résurrection. Certainement. Donc on a Céphas d'un côté, que Paul cite en disant « Qui a vu la résurrection ?» Céphas, Jacques. Et puis ensuite, il va continuer de détailler les apôtres, et puis les fameux 500, là. Donc, alors, si tu reviens à Corinthiens 15, les fameux 500 qu'on retrouve ici, voilà. verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc la plupart sont encore vivants. Donc quelques-uns sont morts. Alors, c'est qui les 500 ? Je ne sais pas. Voilà. La Bible ne parle pas d'un événement où il y a 500 personnes qui voient la résurrection du Seigneur. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, a priori, c'est incontestable. Parce qu'il les cite et il dit, il y en a 500. Alors, il cite 500 personnes, ce qui doit quand même affirmer ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, il y en a, la plupart sont encore vivants. Quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Donc, allez leur poser la question à ceux-là. Ils vont vous confirmer qu'il y en a bien eu 500 qui ont vu le Seigneur d'un coup. Si je vous dis que j'ai vu quelque chose, vous pouvez me croire, hein, si vous êtes sympa avec moi, ou si ce que je dis paraît sensé, vous pouvez me croire. Mais c'est contestable, vous n'êtes pas obligé. Par contre, s'il y a 500 personnes qui vous disent avoir vu la même chose en même temps, à moins que ce soit un phénomène inexpliqué d'hallucination collective, qui ne soit jamais a priori arrivé dans l'histoire, c'est a priori incontestable, quoi. 500 personnes qui ont vu le même événement. Donc pourquoi Paul y cite Céphas, les apôtres, Jacques, et puis les 500 ? Eh bien, il veut leur prouver quelque chose, voilà, que Christ est bien ressuscité. Il leur dit, voilà, vous voulez la preuve qu'il est ressuscité ? Posez la question. Alors, c'est compliqué à l'époque, les moyens de communication, mais quand ils avaient une question à poser à Paul, ils faisaient quoi ? Courrier. Paul, on a des problèmes de doctrine, on a des questions, là. Paul, petit courrier, ça part en missile, il y a quelqu'un qui va le transporter, etc. On pouvait tout à fait communiquer, même dans le bassin méditerranéen, au premier siècle de notre ère. Hein. Il y avait quand même des moyens de communication. Donc il leur dit, voilà, ces personnes-là ont vu le Seigneur. Bah, libre à présent aux Corinthiens d'aller leur poser la question, hein, de les faire venir, de faire revenir Céphas ou peut-être Jacques, ou alors de les contacter directement. Pourquoi ? Parce que les Corinthiens, ils s'éloignaient de la doctrine. Ils avaient tendance à ne pas garder la doctrine, ils s'en écartaient. C'est ce que Paul leur avait dit au verset 1 et 2. Regardez, on va revenir dessus. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, rappel de l'évangile, Christ est mort, Christ est ressuscité. Pourquoi il insiste autant et pourquoi j'insiste autant ce matin ? C'est que si vous enlevez un des deux, surtout le deuxième, parce qu'il ne peut pas y avoir la résurrection s'il n'est pas mort, si vous enlevez le deuxième, tout s'écroule. Eh oui, s'il n'y a pas la résurrection, à ce moment-là, bah, à quoi ça sert ? Ça veut dire que Dieu est un menteur, le plan de salut n'est pas complet, la pierre angulaire n'est pas solide et tout l'édifice s'écroule. Voilà. C'est pour ça que c'est très important en termes de doctrine de bien tout accepter tel que Dieu l'a écrit et l'a voulu pour nous. Quelle devait être l'attitude des Corinthiens, finalement, par rapport à cette doctrine qu'ils avaient reçue ? Ils ont eu un enseignement, ils sont partis dans tous les sens. Et rappelez-vous, c'est pourquoi on avait mis l'accent les semaines dernières sur pourquoi, attention, parler en langue et aux prophéties, c'est plus pour aujourd'hui. Et attention, parce qu'aujourd'hui, certaines doctrines vous invitent toujours à le faire. Mais ça, c'est des rangs doctrinales, on sort du contexte. Et les Corinthiens, ils sortaient beaucoup souvent de la doctrine. Donc, quelle devait être l'attitude des chrétiens de Corinthe et la nôtre aussi aujourd'hui ? Bien, il y a quatre étapes. C'est la marche du chrétien, en fait. Et on va regarder, c'est le verset 1 et 2. Et on va le voir, en fait, dans une projection. Si tu peux projeter la deuxième slide, vous allez voir le parcours du chrétien. Par rapport à ces deux versets qu'on a vus, la marche du chrétien, de Corinthe et de nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a quatre étapes. Regardez. Ici, il y a le verset. Je vous rappelle, frères et sœurs, et les mots importants, ils sont en rouge. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. La première point, c'est je vous l'ai annoncé. Ça, c'est la prédication. Paul, il a annoncé l'évangile. Prédication. Le deuxième point, c'est la réception. Ok, ça a été annoncé, ils l'ont reçu. Ça, c'est le salut. Une fois que c'est fait, il y a eu la prédication, ça a été annoncé. Réception, ils l'ont reçu. Ensuite, une fois qu'ils ont le salut, il y a la sanctification, c'est la troisième étape. Vous tenez ferme. La sanctification, ça commence au salut, ça finit à la mort. Okay. C'est tout le parcours entre le moment où vous recevez le salut et le moment où vous allez retrouver le Seigneur. Il y a toute cette étape où vous allez grandir. Alors, il y en a, ils vont grandir, pioum ! Puis il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Puis il y en a, ils vont faire pioum, 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 comme Samson, pioum, pioum. Ça vient, ça va, ça va, ça vient. Pas terrible. Il vaut mieux une courbe ascendante régulière plutôt qu'un grand pic et un petit comme ça derrière. Progressez à votre rythme, mais surtout, tenez ferme, c'est la sanctification. Et le quatrième point, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Si vous le retenez dans le terme que je voulais annoncer. Donc, premier point, la prédication. Deuxième point, la réception. Là, il y a le salut. Troisième point, la sanctification. Quatrième point, la fidélité à la parole de Dieu. Et c'est là où il ne faut pas sortir de la doctrine. C'est là où il ne faut pas partir dans tous les sens et aller sur YouTube quand on a une question biblique. La question biblique a une réponse biblique. D'accord ? Question biblique, ce n'est pas dans YouTube. C'est poser la question à la Bible directement. Ou poser la question à quelqu'un de confiance qui partage la même doctrine que vous, qui ne part pas dans tous les sens. Okay ? Donc les quatre étapes de la marche chrétienne pour les Corinthiens et pour les chrétiens du XXe siècle comme nous, XXIe siècle, annonce, reçu, tenir ferme et retenir. Okay ? On ne sort pas de la doctrine, on ne sort pas des textes, on reste bien dedans. Il y a un petit passage difficile, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je voulais l'annoncer. Donc ça veut dire que si on ne peut pas être sauvé, si on retient pas ferme, donc le salut c'est conditionné au fait qu'on tienne ferme, donc c'est aussi les œuvres et tout ça. Non, pas du tout. Ici, ce n'est pas une condition, on n'est pas sauvé parce qu'on retient la parole dans les termes qui nous ont été annoncés, c'est une conséquence. Comme on est sauvé, on retient les termes de la parole. C'est pas pareil, c'est pas une condition, c'est une conséquence. Comme on est sauvé, eh ben normalement, on doit tenir ferme. Voilà. Sinon, est-ce qu'on est vraiment sauvé ? Le problème des Corinthiens, c'est que, et c'est le cas aussi, hein, parfois pour nous aussi, hein, on voit certains qui viennent au Seigneur, mais il n'y a pas de changement dans leur vie, en fait. À Corinthe, quand on lit les précédents chapitres, on se dit, ils sont vraiment sauvés à Corinthe. Des fois, ça fait peur, quoi. Il y avait de la débauche sexuelle, il y avait de l'immoralité, il y avait plein de trucs. Enfin, c'était... Et on se dit, est-ce que c'est vraiment sauvé ? Il y a un passage dans Matthieu 13, vous savez, la parabole du semeur, où le semeur va planter, hein, mais la récolte, ce ne sera pas la même, hein, à chaque fois. Hein. On peut regarder peut-être dans Matthieu 13. Matthieu 13. Vas-y, si tu veux reprendre la parabole du semeur. Voilà. Matthieu 13, verset 4. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait... ils avaient l'image, hein. Voilà, alors c'est un peu à l'ancienne. Voilà, donc il avait sa semence comme ça, puis il avance, et puis il sème. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, donc elle prend racine assez vite. Mais quand le soleil parut, pioum, elle fut brûlée, sécha, faute de racine. Une autre graine partit dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà l'image que le Seigneur utilise, vous la connaissez probablement, c'est la semence, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Prédication, réception, donc prédication, voilà. Il sème. Le problème, c'est quoi ? C'est la semence. Celle qui tombe dans les ronces et dans la pierre, elle est moins bien, cette semence-là. C'est quoi le problème, en fait ? C'est le sol, où est-on, hein ? La parole de Dieu, c'est la même. Le problème, c'est pas la parole de Dieu. Hein. Le problème, c'est quoi ? C'est notre cœur. Est-ce qu'on a un cœur de pierre ? Est-ce qu'on a un cœur de ronce ? Est-ce qu'on a blablabla, hein ? Et puis ça tombe dans la bonne terre, et puis là ça pousse. Mais sur les quatre exemples, il n'y en a qu'une seule fois où ça pousse. Donc il y a la seule condition, eh ben, c'est de recevoir annonce, réception. Sinon, on rejette, et puis à un moment, on va voir peut-être quelque chose comme ça, et puis après ça va disparaître assez vite. On voit des gens, hein, qui viennent au Seigneur, hein. Parfois ils se baptisent, hein. Et puis après on se dit, ils sont où ? Tu viens plus, hein ? Ah non, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai trop de travail. Enfin, voilà quoi. Quel type de terre sommes-nous ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? Des ronces, des pierres, une bonne terre ? Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Sur quoi on est enraciné ? Alors Paul exhortait les Corinthiens ce matin, c'est aussi nous par la même occasion. Si on appartient au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder la parole. Ça doit transformer nos vies. Il doit y avoir du changement dans nos vies. Elle doit transformer nos vies. Et puis on doit l'accepter dans sa globalité. C'est pas la carte. Hein. C'est pas au restaurant. Je prends la mort et pas la résurrection, parce que la résurrection, je comprends pas. On avait un ami qui était comme ça, scientifique. Il est vraiment, il est une recherche de Dieu, quoi. Et quand on partageait, parce qu'il nous posait des questions, il disait, moi, la mort, je veux bien, mais la résurrection, je peux pas. Parce que je comprends pas. Et moi, j'ai besoin de comprendre. Comment un corps peut se ressusciter, etc. Et on lui a dit, laisse cette partie-là, c'est une partie que tu pourras pas comprendre. La foi, c'est aussi de croire ce qu'on voit pas. Si tu crois ce que tu vois, c'est plus de la foi, hein. Là, on n'a aucun mérite à croire quelque chose qu'on voit, quoi. Voilà. Et il est venu au Seigneur. Il a dit d'accord, je fais le pas de foi. Et voilà, il s'est engagé pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais voilà, ça peut être difficile pour certains d'entre vous. La mort, d'accord. La résurrection, j'ai un petit peu du mal. Ben non, ce que Paul nous dit, c'est qu'on ne peut pas prendre la vie de Christ sans la mort, et on ne peut pas prendre la mort de Christ sans la résurrection. Voilà. C'est un tout. Il y a la vie de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ. Si vous enlevez un seul élément de la chaîne, ça tient plus, quoi. Ça tient plus. Soit on prend tout, soit on prend rien. Et l'apôtre disait comment ? Sinon, votre foi, elle est vaine et inutile. Donc, il faut tout prendre. Alors, mes amis, juste pour conclure, soyons prompts à ne pas déformer la parole de Dieu. Paul, il a eu besoin de rappeler les bases en disant « Je vais vous reprendre les racines de l'espagnol, parce que là, on ne va pas avancer si on fait le gérondif. On va reprendre le vocabulaire de base. Voilà, Christ est mort pour vos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. » Voilà. Ne déformons pas la parole, laissons-la nous transformer, les amis. Laissons-la nous transformer. Il faut qu'elle pousse en nous et qu'elle nous transforme à l'image du Seigneur. C'est ça le plus difficile. Hein. C'est ça. Hein. Alors, petite synthèse pour conclure. Paul, donc, il rappelait l'évangile de Christ à l'église de Corinthe. Pourtant, on avait devant nous des chrétiens, rappelez-vous, ils étaient bien enseignés, bien enseignés. Ils connaissaient la parole, ils l'avaient entendue, ils l'avaient reçue, elle avait été bien prêchée, pas de souci. Mais comme avec le cours d'espagnol, le problème, c'était pas Madame Martine, c'était Fabrice qui n'écoutait pas quand la prof faisait cours. Donc soyons bien attentifs à mettre en pratique ce que nous dit la parole de Dieu quand on l'entend. On coupe le téléphone pendant la prédication, pourquoi pas. On écoute, on ne parle pas pendant la prédication aussi, on ne commande pas parce que sinon on n'est pas attentif. On ne peut pas écouter et parler, ce n'est pas possible. Donc on est bien attentif à ce que dit la Bible quand on l'écoute. Et pour le rappel de la doctrine, ils mettent l'accent sur deux points majeurs. La mort de Christ. Pourquoi la mort de Christ d'abord? Parce que le salut des hommes est acquis par la mort de Christ. C'est parce qu'il meurt sur la croix. Il y avait un constat, on est tous pécheurs, on va tous mourir. Un remède, Christ est mort pour nous. Une décision à prendre, on fait quoi? Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Voilà. Donc le salut n'est pas automatique pour tous les hommes. Quand Christ meurt sur la croix, ce n'est pas pour toute l'humanité d'un coup. C'est pour ceux qui croient dans leur cœur que Christ est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts. Donc le deuxième point, c'était premièrement la mort de Christ et deuxièmement la résurrection de Christ. Pourquoi la résurrection? Parce que c'est une des conditions du salut. Si tu crois dans ton cœur, il faut qu'il y ait la résurrection. Si on ne croit pas à la résurrection, on ne peut pas être sauvé. Si vous croyez à la mort de Christ sans sa résurrection, vous devez réfléchir sérieusement à votre salut, les amis. Hein. Vraiment. Parce qu'il va vous manquer quelque chose. Hein. Et on a vu que le processus donc, du chrétien, c'était sa marche, c'était quatre étapes. L'annonce que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, prédication, réception, tenir ferme, c'est la sanctification. Et le quatrième point, c'est la fidélité à la parole de Dieu, si vous le retenez dans les termes, etc., que je vous ai annoncé. Alors mes amis, je vous invite à faire un beau parcours de marche chrétienne. Soyez zélés quand vous marchez avec le Seigneur. Grandissez bien dans la connaissance de la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Pas besoin de nouvelles prophéties, vous n'avez pas besoin de Google ou de YouTube, vous avez tout ici. Participez aussi aux rencontres de l'Église, c'est là aussi où on partage la parole de Dieu. Et puis ne vous éloignez pas du Seigneur comme à Corinthe, voilà. Restez bien fidèles dans la doctrine de Dieu. On va prier. Seigneur, comme il est important de bien écouter ta parole, de bien regarder ce qu'elle dit, de bien détailler point par point, idée par idée, mot par mot, contexte par contexte, de bien être attentif à ce qu'on entend, Seigneur, faire silence quand c'est toi qui parles. Oui, Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur, nous sachions éteindre notre radio mentale, Seigneur, pour t'écouter, toi. C'est toi, Seigneur, que nous avons besoin d'entendre, et c'est toi qui vas nous édifier dans ta parole. Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Que tu sois béni pour cela, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, merci. Mais tu es aussi ressuscité, Seigneur, et tu es assis à présent à la droite de Dieu, Seigneur, et tu intercèdes pour nous. Seigneur, peut-être que parmi nous, ce matin, certains n'ont pas encore accepté cela. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris. Peut-être aujourd'hui, c'est la première étape pour eux, l'étape de l'annonce, la prédication. Nous prions pour eux à présent qu'il y ait la réception, le salut, Seigneur. Où en êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous appelez Christ votre Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour vous? Si ce n'est pas le cas, que vous voulez faire ce pas aujourd'hui, ce pas de foi de venir à Christ, je vais vous inviter simplement à lever la main. Faites juste un petit signe de la main, qu'on puisse acter votre engagement et prier pour vous, si vous voulez faire cela. Si le Seigneur parlait à votre cœur, est-ce que vous avez vraiment fait du Seigneur votre Dieu, votre maître, votre conducteur? C'est dans vos cœurs, hein. Donc, parlez-lui, faites la paix avec lui. Seigneur, je te prie encore que cette semence ne tombe pas dans les ronces, dans les pierres, et qu'elle tombe dans la bonne terre et qu'elle puisse croître, Seigneur, pour le salut. Et un salut magnifique. Une belle plante ensuite, Seigneur, qui grandira bien pour toi. Seigneur, je prie aussi pour mes frères et sœurs qui t'appartiennent, qu'ils soient édifiés sur toi, Seigneur, que ta parole les édifie chaque jour, et que toi, Seigneur, tu leur fasses du bien à chaque instant. C'est ma prière dans le nom de Christ. Amen.
Amen.